Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, le gouverneur du Nord Kivu appelle la population au calme et à la vigilance. Le lieutenant-général Constant Dima a fait cet appel dans une déclaration officielle hier mardi soir à Goma, en réaction à la panique due aux rumeurs d'une prétendue présence des rebelles du M23 aux environs de la ville. Le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku, a participé hier mardi à Bali, en Indonésie, à la réunion de G20, c'est-à-dire du groupe de 20 pays industrialisés émergents. Une rencontre organisée sous le thème Bali 2022, se relever ensemble et plus fort. L'invité de ce journal est le chargé de programme eau et assainissement, hygiène et assainissement de l'UNICEF, bureau de Goma. El Hadji Oumar Ba parle des interventions de l'UNICEF en faveur des déplacés de guerre dans les sites de Kanyarutinya en territoire de Nyiragongo. Sachez tout d'abord que le président de la République a promulgué une série d'ordonnances nommant les membres des conseils d'administration et des directions de plusieurs établissements publics. Les noms des personnalités nommées ont été lus hier soir à la Radio-Télévision Nationale Congolaise par la porte-parole adjointe du chef de l'État, Tina Salama. Parmi les nommés figurent notamment Sylvie Elengue au poste de directrice générale de la RTNC avec comme adjoint Joseph Voto, les journalistes Mimi Ngumba, Serge Kabongo, Oscar Kabamba Kasongo et une dizaine d'autres sont nommés membres du conseil d'administration du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Les députés Jean-Marie Lukulasi est nommé président du conseil d'administration de l'Institut national des préparations professionnelles, tandis que Fidel Babala prend la direction de la société orifère du Kivu et du Maniema. Retrouvez plus de détails sur toutes ces nominations sur radiokapi.net. Au Nord Kivu, je le disais au sommaire, le gouverneur militaire appelle la population au calme et à la vigilance. Le lieutenant général Constant Dima a fait cet appel dans une déclaration officielle hier mardi soir à Goma. Il réagissait à des informations faisant état de la guerre entre les FARDC et les rebelles du M23 qui s'approchaient de la ville de Goma. Des informations qui ont créé une panique dans la ville et dans les villages du territoire proche de Nyiragongo. Constant Dima, dans ses propos recueillis par la presse du gouvernorat.
Chers compatriotes, au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, je vous demande de rester vigilant et de résister à l'ennemi.
Rappelons que vers 15h locale, hier mardi, voyant quelques militaires qui quittaient la zone des combats vers Kibumba, plusieurs habitants de la zone ont paniqué. Et puis la guerre doit cesser immédiatement dans l'est de la RDC avant tout dialogue entre les parties prenantes au processus de Nairobi tel que prévoit sa feuille de route. Ces propos sont de l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour la paix dans l'est de la RDC, devant la presse hier mardi à Goma, au Nord Kivu. Les facilitateurs Uhuru Kenyatta s'est dit choqué de la situation humanitaire délétère vécue par des milliers de déplacés dans les sites de Kanyarutinya qu'il a visité quelques heures après sa descente d'avion. Les propos de Uhuru Kenyatta ont été recueillis par Gabriel Ouaminia.
Yale ambaye ni medione, na nyinyi tulikuwa pamoja nanyi na mumedione. Watoto, wakina mama, wazee.
Nous étions ensemble et vous avez vu vous-même les enfants, les femmes, les vieillards qui sont devenus des déplacés dans leur propre pays. Même si nous sommes en conflit, même si nous n'arrivons pas à nous entendre, nous devons arrêter de nous battre. Ces déplacés n'ont rien à voir dans ces conflits. Ayons pitié de ces gens et arrêtons de nous battre et discutons. Nous ne devons pas nous dire de discuter d'abord et le reste après. Non. Nous devons d'abord arrêter la guerre pour discuter après. Vous avez vu, des milliers de populations et leur nombre augmentera le lendemain. Étant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir qu'un être humain n'est pas un animal. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est comme si l'homme est devenu un animal de la forêt. C'est notre responsabilité de mettre fin à cette guerre.
Et peu avant son départ, le facilitateur de l'EAC a rencontré diverses personnalités dont la chef du bureau de la MONUSCO et la communauté humanitaire du Nord Kivu. Et puis environ 3,8 millions de dollars américains, c'est le financement d'un projet en faveur de la police nationale congolaise consenti par le gouvernement du Japon. La signature de ce projet est intervenue hier mardi à Kinshasa entre l'ambassade de l'Empire du Soleil Levant, l'OIM et la JICA en présence d'un représentant du ministère de l'Intérieur. Les points dans ce reportage d'Honoré Missenga rendu par Priscille Kabuya.
Le projet porte sur le renforcement des activités de la police de proximité à Kinshasa et dans la province du Tanganyika. Selon le chef de mission de l'Organisation internationale pour la migration, OIM, ces projets s'inscrivent dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise, plus particulièrement dans le secteur de son plan d'action quinquennal 2. Dans la province du Tanganyika, il consistera notamment à construire un centre de formation, un commissariat et 4 sous-commissariats, dotés de la police, de moyens de transport et de transmission, des immobiliers, du bureau et des matériaux informatiques ainsi que d'appuyer la formation de policiers en police de proximité. De même, pour la ville-province de Kinshasa, ce projet a programmé la construction d'un commissariat et de 5 sous-commissariats, la fourniture de moyens de transport et de transmission radio et l'équipement matériel, informatique et de mobilier de bureau. Le coût est d'environ 3,8 millions de dollars, un financement du gouvernement japonais. Son exécution sera assurée par la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale, alors que l'OIM se chargera de sa mise en œuvre.
Organisé sous le thème Bali 2022, se relever ensemble est plus fort. La réunion du G20, c'est-à-dire le groupe de 20 pays industrialisés émergents, a connu la participation du ministre congolais de l'Industrie hier mardi. Outre la crise russo-ukrainienne et ses conséquences en Afrique et dans d'autres continents, plusieurs autres sujets ont été au rendez-vous au cours de cette réunion qui s'est tenue à Bali en Indonésie en rapport avec l'agriculture, l'économie numérique et l'environnement. À cette occasion, Julien Paluku a échangé avec le président français. D'autres détails avec vous, Alain Hirung.
Julien Paluku a appelé Emmanuel Macron à appuyer la République démocratique du Congo dans la matérialisation du grand projet panafricain de l'installation d'une première usine de fabrication des précurseurs des batteries dans la province du Haut-Katanga et dans le processus d'installation des zones économiques spéciales qui augurent la transformation locale des ressources naturelles congolaises. Parlant de l'étude réalisée par Bloomberg, le ministre congolais de l'Industrie a fait savoir au président français que la République démocratique du Congo est la meilleure destination au monde pour l'industrie des batteries et des véhicules électriques grâce à ses minerais stratégiques dont le cobalt, le lithium et le manganèse. Les investisseurs français sont donc les bienvenus en RDC car régorgeant d'énormes potentialités dans plusieurs domaines, a-t-il ajouté au cours de ses tête-à-tête. Outre le président français, le ministre Julien Paluku s'est également entretenu avec le conseiller de l'administration Biden au département d'État du Trésor, John Morton. La problématique de la réindustrialisation de la RDC était au menu de leurs échanges. Avec ces rencontres, le ministre congolais de l'Industrie affirme consolider davantage la diplomatie industrielle de la République démocratique du Congo.
Signalons que la République démocratique du Congo a été représentée à cette réunion de G20 par Eve Bazaïba et Julien Paluku, respectivement vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable et ministre de l'Industrie. Au Kasaï oriental, remise hier mardi d'un chèque de l'ordre de 100 000 dollars américains à la MUFA, la mutuelle financière des femmes africaines Mbujimaï, dont de la fondation Kemesha qui regroupe plusieurs autres organisations. La cérémonie de remise de ce chèque s'est déroulée au 16 de la mutuelle financière des femmes africaines Mbujimaï. D'après la présidente du conseil d'administration de la MUFA, ces fonds seront octroyés aux femmes marchandes les plus démunies qui évoluent dans les secteurs informels pour renforcer leurs activités économiques. Alphonsine Kavoala, PCA de la MUFA Mbujimaï, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Ce montant-là de 100 000 dollars est déjà matérialisé dans nos comptes à l'Eurobank. C'est une aide de la part de la fondation Kemesha pour soutenir la femme la plus démunie du Kasaï oriental. Nous disons merci à la fondation et nous disons surtout merci au chef de l'État qui nous a donné l'occasion de vivre ces moments ici parce que c'est lui qui nous a construit le bâtiment que vous voyez. Ces fonds, nous allons octroyer des crédits aux femmes démunies, des gagnes petits, les femmes qui vendent la tomate, les balais, le sucre sur le marché, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de capital, toutes catégories confondues. Ce chèque va leur venir en appui en les octroyant un crédit. selon qu'elles en ont besoin. J'invite les femmes du Kasaï oriental à s'élever, à se mettre debout pour venir épargner son argent à la banque MIFA. La MIFA est là pour aider la femme, qu'elle sache comment épargner son argent, comment l'utiliser, comment le cadrer. Il ne faut pas que les femmes restent à la maison à garder leur argent dans des sachets de peur de se faire voler ou de les faire bouffer par les rats ou les souris. Il faut venir épargner à la banque. Nous avons besoin de la femme kasaïenne aujourd'hui qu'elle comprenne que sans épargne, elle n'ira pas très loin.
La ministre de la Justice soutient les réformes aussi profondes que sérieuses du pouvoir judiciaire. Au cours de son audition hier mardi à la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, Rose Mutombo a salué la proposition de loi du sénateur Alexis Tambwe Mwamba sur le statut des magistrats. Cette proposition de loi renforce dans certaines de ses dispositions le pouvoir de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires, bras séculiers et services spécialisés du ministère de la Justice, selon Rose Mutombo. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
Même l'article 70 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, qui place les officiers du ministère public sous l'autorité du ministre de la Justice à travers le pouvoir d'injonction sur les parquets, ne lui donne pas le champ libre, car cet article limite la portée de ce pouvoir d'injonction. En effet, cet article indique clairement que lorsque le ministre de la Justice exerce son pouvoir d'injonction sur le parquet en saisissant le procureur général près de la Cour de cassation, l'auditeur général des forces armées ou le procureur général près de la Cour d'appel, il ne doit pas interférer dans la conduite de l'action publique. Le ministre de la Justice n'a pas à exercer son contrôle direct sur le magistrat en dépit des attributions de la surveillance des activités judiciaires.
Notez que la ministre Rose Mutombo répondait aux plaintes de la population auprès des députés sur l'irrespect des délais des prononcés des jugements, l'absence de motivation dans les jugements et la distribution inéquitable de la justice en RDC. En dépit du pouvoir d'injonction que lui reconnaît la loi sous le ministère public, l'article 151 de la Constitution ne lui confère pas le pouvoir d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Ituri, suite de notre série de reportages sur les territoires de Mahagi, les structures sanitaires ne sont pas équipées dans ce territoire pour faire face à l'épidémie d'Ebola qui sévit en Ouganda, pays qui partage la frontière avec cette entité. Selon les autorités sanitaires, le mouvement des populations qui est intense entre les deux pays n'est pas contrôlé dans plusieurs localités frontalières où il n'y a pas de services de l'État, ce qui augmente les risques de propagation de cette épidémie dans la région. Des détails avec Isaac Remoyopi.
Selon des sources médicales, des dizaines de cas d'Ebola sont enregistrés en Ouganda qui accueillent de nombreux Congolais qui traversent chaque jour la frontière entre les deux pays. Face au risque permanent de propagation de cette épidémie dans les territoires de Mahagi, les autorités locales sont en alerte pour la prévention contre cette maladie. Les réunions qui regroupent les responsables de plusieurs services et les comités de sécurité se tiennent chaque semaine pour définir des mécanismes et des ripostes suivis des campagnes de sensibilisation de la population. Cependant, les défis sont énormes dans les trois zones de santé de ces territoires. Précise des sources médicales. Il n'y a pas un lieu d'isolement pour accueillir les malades. Les équipements de protection du personnel médical font également défaut. Mais surtout, la porosité des frontières pour contrôler les mouvements des habitants qui passent par des sentiers non surveillés par l'État. Les médecins chefs des zones de santé de Mahagi lancent un appel à la hiérarchie.
Il y a des petites entrées. Le service hygiène aux frontières n'est pas dans toutes ces entrées. Le besoin urgent que les personnes soient formées. Parce que si vous n'êtes pas formé, vous pouvez vous contaminer facilement à cette maladie. On doit avoir un centre où on doit prendre, s'il y a un cas, où est-ce qu'on doit l'isoler? Ça, c'est une urgence. On doit avoir les équipements.
Signalons que les risques de propagation d'Ebola sont également énormes dans les territoires frontaliers d'Arou, qui est confronté aux mêmes difficultés pour la prévention contre cette épidémie. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité internationale.
MINUSMA, la Côte d'Ivoire, annonce à son tour le départ de ses troupes du Mali. Après la France, la Suède et le Royaume-Uni, la Côte d'Ivoire a annoncé un retrait de ses troupes déployées au Mali dans le cadre de la MINUSMA, la mission onusienne pour la stabilisation de la région. Au total, 900 casques bleus ivoiriens vont quitter progressivement le territoire malien d'ici 2023.
L'invité.
L'invité de ce journal est le chargé de programme eau, hygiène et assainissement de l'UNICEF Bureau de Goma, El Hadji Oumar Ba, par les interventions de l'UNICEF en faveur des déplacés. Il est avec Bernard Denyangui.
Monsieur Omar Ba, bonjour.
Bonjour.
Il y a déjà plus de deux semaines, depuis que ici à Kanyaruchinya, il y a beaucoup de déplacés qui ont afflué vers ici. Quelles sont les réponses d'abord que vous avez données comme UNICEF par rapport à ça?
Au niveau de l'UNICEF, dès l'arrivée massive le 29 octobre des populations venant de la zone de conflit, donc le même jour, à travers nos partenaires, on est venu faire une évaluation par rapport au secteur eau, hygiène et assainissement. Et le lendemain, le 30, on a commencé à distribuer de l'eau. Nous avons été pratiquement parmi les premiers acteurs à répondre aux besoins en eau, comme on sait que les besoins en eau sont urgents dans une telle situation. Et depuis ces jours, on a continué avec nos partenaires. Au début, on distribuait beaucoup d'eau, mais avec la présence de certains acteurs, aujourd'hui en moyenne, on distribue 113 mètres cubes d'eau par jour pour couvrir les besoins en eau d'environ 23 000 personnes chaque jour. Mais c'est aussi assainissement dedans, donc on est en train de faire des constructions de latrines et des douches pour assurer l'intimité des utilisateurs et puis la gestion de tout ce qui est excréta au niveau de la zone occupée pour éviter la propagation des maladies hydriques. Donc on a aussi en termes d'hygiène conduit avec nos partenaires des activités de promotion d'hygiène de base et on fait aussi des distributions de kits pour pouvoir permettre aux populations de pouvoir collecter, transporter et stocker l'eau.
Parler des partenaires, c'est lesquels?
Les partenaires, pour le moment, on a commencé avec AVIDES et avec BIFERD qui sont en train de répondre, mais à ce jour on est en train de finaliser aussi un partenariat avec un autre partenaire qui est Grand Lac, normalement cette semaine, pour renforcer un peu cette réponse.
Vous dites que c'est sur base des évaluations que vous avez faites avant, ici à Kanyaruchinya, mais est-ce que cette même évaluation tient encore, puisque nous voyons qu'il y a encore d'autres arrivées?
Oui, les arrivées continuent de façon progressive, mais aussi il y a des acteurs qui se positionnent, parce qu'au début, c'était pratiquement seulement UNICEF et ses partenaires qui avaient commencé au début, mais après, il y a eu beaucoup d'autres ONG, d'autres agences qui se sont positionnées et qui ont installé des points de distribution d'eau. Donc ça fait que c'est un peu plus harmonisé et ça tient compte de l'arrivée progressive des gens.
Comment vous faites pour vous rassurer que l'eau que vous donnez à ces déplacés est aussi une eau qui est propre?
En fait, on a mis en place un mécanisme depuis le début, c'est de donner des kits à nos partenaires pour vérifier le taux de chlore résiduel. Donc une fois que la citerne arrive sur le site, avant de mettre l'eau dans les bladeurs, c'est que le partenaire a un point focal qui prend d'abord l'eau et qui vérifie le taux de chlore résiduel qui doit être compris entre 0,3 et 0,8 mg par litre. Maintenant, si on est en deçà de ce standard, donc ils font ce qu'ils appellent le jar test. Techniquement, c'est de voir quelle est la quantité de chlore qu'il faut ajouter pour respecter le standard avant de donner l'eau à la population pour éviter d'avoir un impact sur la santé des consommateurs.
C'est de l'eau qui est tirée du réseau de la régie des eaux?
Oui, c'est des stations de pompage de la régie des eaux où les gens viennent s'approvisionner. C'est pour ça que l'eau vient déjà chloré, mais on vérifie parce que le taux de chlore peut être consumé. Ça dépend de la propriété de la cuve, de la citerne et tout. Et donc, c'est pour ça qu'on vérifie et qu'on s'assure dès que l'eau arrive au niveau d'ici.
Comment vous pouvez évaluer aujourd'hui votre niveau d'intervention? Est-ce que vous avez déjà couvert à 100% les besoins ou bien il y a encore de gaps?
Bon, il y a toujours des gaps parce qu'aujourd'hui, on a le niveau moyen en termes d'urgence. Donc, on a les standards. Mais en termes de vie continue, ça devrait être rehaussé pour couvrir tous les besoins des déplacés. L'une des difficultés aussi, c'est par rapport à ce camionnage d'eau, le water trucking. C'est que ça a des limites parce que ça coûte très cher. C'est environ 10 000 dollars par jour que les gens financent ici. Et donc, sur le long terme, ça risque de peser sur les capacités des partenaires. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce serait très important de pouvoir identifier des zones où on peut avoir accès à l'eau et où on pouvait mettre un système de potabilisation et de pompage d'eau pour pouvoir répondre de façon très efficace et de façon suffisante aux besoins des gens.
Il y a quelques ménages qui ont déjà bénéficié de kits WASH de l'UNICEF, mais il y en a encore d'autres qui disent qu'ils n'en ont pas encore bénéficié. Est-ce qu'il y a une explication par rapport à ça?
Oui, tout à fait. Je pense que va renforcer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des problèmes de mobilisation des ressources financières pour pouvoir répondre efficacement et de façon assez importante aux besoins des populations.
Monsieur Omar Ba, merci.
C'était l'invité de ce journal, le chargé du programme Eau, hygiène et assainissement de l'UNICEF Bureau de Goma, avec Bernard Denyangui, El Hadj Omar Ba, parler des interventions de l'UNICEF en faveur des déplacés de Kanyaruchinya dans le territoire de Niragongo. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.